Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des lycéens dirigé par Hugues Sérapion, émission préenregistrée le 9 juillet 2010, diffusée pour la première fois le samedi 7 août 2010 de midi à 13h30, puis l'après-midi de 16h à 17h30 et dimanche 8 août dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission est réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Émission certes préenregistrée, mais j'espère passionnante. Et puis, comme de coutume, vos questions et remarques seront évidemment toujours les bienvenues. En ces temps de réflexion sur l'action de l'État, d'interrogation sur son avenir, sur l'avenir aussi des collectivités locales et territoriales, d'inquiétude sur l'endettement des États et tout particulièrement de la France, il nous a semblé pertinent d'interroger une organisation spécialisée sur le thème que nous avons choisi, les politiques publiques en France et dans le monde, quelles réponses aux enjeux actuels. Et c'est aussi l'occasion de faire découvrir à nos auditeurs un institut spécifiquement dédié à l'étude de ces questions. Alors, pour nous accompagner dans notre réflexion, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Philippe.
Bonjour.
Cécile Philippe, bonjour. Bienvenue à mon micro. Je vous présente en quelques mots en disant que vous êtes docteur en économie et président de l'Institut économique Molinari. L'Institut économique Molinari étant une société de pensée, un cercle de réflexion. Bref, les anglo-saxons appellent ça un think tank, mais à la radio de la francophonie, Hugues Sérapion et Cécile Philippe feront un effort pour ne pas employer ce terme.
Juste une fois quand même.
Juste une fois quand même, pour la bonne bouche. Cécile Philippe, l'Institut Molinari, parmi d'autres instituts qui travaillent sur les questions économiques, quelle est sa spécificité? Que cherche-t-il à faire?
Alors nous, on est un institut de recherche, comme vous le disiez très justement, et notre objectif, c'est vraiment de faire de l'analyse des politiques publiques en France et au niveau européen. J'ai rien inventé. Je me suis inspirée de ce qui se passait et de ce qui existait surtout dans le monde anglo-saxon, parce que c'est quand même dans le monde anglo-saxon qu'on trouve une véritable industrie, et donc là je vais utiliser le terme l'industrie du think tank, qui effectivement a encore du mal à faire son trou, si je puis dire, dans le monde plus européen. Mais c'est donc ce sont des instituts qui se focalisent sur l'action prise vraiment dans le sens le plus large du gouvernement dans tous les domaines de la vie, en particulier économique, puisque moi c'est vraiment de l'analyse économique que nous faisons, et l'objectif est évidemment d'analyser les conséquences que peuvent avoir les différentes interventions publiques dans l'économie. Donc l'action publique dans l'économie. Au prix au sens large, hein, ça peut être vraiment aussi bien donc les règles générales qui sont mises en place au sein d'une société, comme le fait de faire en sorte que les droits de propriété sont bien définis et respectés, que les contrats sont eux aussi respectés, à des choses beaucoup plus spécifiques et je dirais malheureusement caractéristiques de notre société, où il s'agit de micromanager des secteurs entiers de l'économie, des télécoms à la poste, en passant par les transports quand eux sont pas totalement publics. Et donc toutes sortes, vraiment tous les secteurs de l'économie y passent.
Alors Cécile Philippe, vos travaux sont à destination de qui ? Les entreprises, les gouvernements, les administrations, les particuliers, les hommes politiques ? Pour qui travaillez-vous ? Soit parce que ce sont des commanditaires, soit parce que c'est à eux que vous destinez philosophiquement votre travail.
Voilà, c'est exactement ça la vraie question, c'est que philosophiquement, on destine notre travail au grand public. Et c'est ça l'intérêt d'un think tank, d'un institut de recherche par rapport à une activité de lobbying. C'est que le lobbyiste travaille pour un intérêt particulier qui est, et dont l'objectif est effectivement de faire passer un certain nombre de réformes. Nous, notre objectif, c'est véritablement d'atteindre l'opinion publique, de porter à sa portée un certain nombre d'analyses, de sorte que eux puissent se les approprier, les comprendre et ouvrir le débat sur des questions sur lesquelles parfois il n'y a absolument aucun débat, comme l'environnement sur lequel j'ai consacré beaucoup de temps ces dernières années et sur lequel il y avait vraiment une omerta, hein, on ne pouvait absolument pas parler d'un certain nombre de sujets. Et nous, on avait décidé donc de vraiment prendre ce sujet à bras-le-corps et dans l'objectif d'informer et d'alerter le public sur un certain nombre de mythes, parfois de tabous et de choses qui ont un impact crucial dans la vie des gens. C'est surtout ça. Alors évidemment, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc il s'agit, et c'est toute la difficulté, mais aussi tout le challenge et l'intérêt de cet institut, c'est de trouver des gens, des individus, des fondations, des entreprises, parfois j'en ai trouvé, qui nous accompagne dans cette mission qui est d'informer le public. Alors parfois, elles y ont évidemment intérêt puisque les sujets concordent et il existe encore un certain nombre d'entreprises notamment qui ont tout intérêt à voir le marché plus libre, plus ouvert, moins réglementé et où les droits de propriété sont mieux respectés. Et donc dans ce cas-là, ils peuvent nous accompagner, des fondations et évidemment aussi des individus.
Alors en matière de grand public, Cécile Philippe, vous l'avez un petit peu par l'intermédiaire des auditeurs qui, j'espère, se passionneront pour les questions que l'on va aborder. Car comme vous l'avez dit très justement, l'enjeu c'est que tout cela n'est pas pure spéculation d'intellectuels ou d'économistes, mais que tout cela a des conséquences extrêmement concrètes dans la vie de tous les jours, de nous tous, citoyens français ou habitants de cette modeste planète Terre. Vous avez cité la question des lobbyistes qui, à tort ou à raison, mais dans l'esprit du grand public, sont des forces d'influence au service d'un intérêt particulier, qui d'ailleurs peut ou ne peut pas recouvrir l'intérêt général. Est-ce qu'il est faux de dire que vous, toutes vos études sont, même si elles sont financées pour certaines par des entreprises, des particuliers, des fondations, etc., tournées vers l'intérêt général ?
C'est ce que je pense, oui, absolument. Nous, notre objectif, c'est véritablement de favoriser des politiques publiques qui sont favorables à la prospérité de l'ensemble des individus dans notre société. C'est ce qu'on essaye d'expliquer, d'ailleurs. On essaye d'expliquer, c'est vraiment notre cheval de bataille, d'expliquer que l'intervention publique ne peut pas tout. Et que l'initiative individuelle, dans le cadre d'un respect, justement, c'est pour ça que je répéterai ce mot, je pense, un certain nombre de fois pendant l'interview, parce que c'est vraiment la chose clé à nos yeux de savoir que, justement, dans un cadre de responsabilité borné par des droits de propriété bien définis, eh bien, en général, on crée un environnement favorable à l'initiative individuelle, à l'innovation et donc à la prospérité de tous, quoi.
À la prospérité et peut-être à la justice aussi.
Et à la justice, bien sûr. C'est clair que ça fait partie du parce que si on pense que le droit de propriété est juste, effectivement, on contribue de ce point de vue-là à la justice en général. Mais c'est vrai que ce sont des aspects qu'on évoque moins. Nous, on est davantage dans les conséquences, hein, qu'est-ce que ça fait que l'État intervienne et décide d'une politique plus particulière, d'imposer une taxe carbone, de reculer, finalement, d'empêcher la privatisation de la poste, de re-réglementer le secteur des télécoms. Enfin, on pourrait en prendre des exemples infinis.
Oui, ce qu'il faut bien préciser à nos auditeurs, c'est qu'il faudra donner les coordonnées de l'Institut pour qu'ils puissent y référer, parce que vous avez un site internet qui est d'une très très grande richesse avec énormément de monographies en accès libre, donc je ne saurais trop recommander à nos auditeurs d'aller sur votre site internet, mais vous donnerez ces coordonnées. C'est que vos travaux sont des travaux extrêmement concrets, hein, qui s'inscrivent dans une réalité quotidienne Et la question de la poste, ça nous touche tous.
C'est,
ouais. Nous recevons et nous envoyons du courrier et étudier quel est l'impact et en effet la justesse économique et juridique d'une décision publique, qu'elle soit française ou européenne sur ce sujet, n'est pas neutre. Mais pourquoi je parlais de cela ? C'était pour quand même replacer votre action dans un sens plus général et faire comprendre aux auditeurs que les questions économiques, comme toutes les grandes questions humaines, ont des répercussions politiques au sens polis, la cité, c'est-à-dire qui vont nous toucher tous et sur lequel, eh bien, en tant qu'être libre et responsable, nous devrons prendre position. Et vous donnez un éclairage pour justement prendre position. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui n'est malheureusement plus assez développé, notamment en France, c'est-à-dire la réflexion avant la décision, que ce soit la décision d'un État, où bien évidemment on espère toujours que c'est éclairé, mais même pour soi-même, est-ce que nous parlons d'un sujet, nous avons fait l'effort de faire un travail minimum de recherche pour notre propre, honnêteté intellectuelle, ça c'est un enjeu et je pense que vous y contribuez.
Alors justement, ça me permet de faire une remarque sur justement le nom de l'Institut, c'est-à-dire que ça s'appelle l'Institut économique Molinari.
Ah oui, et Molinari, qui est ce brave monsieur?
Voilà, il s'agit de Gustave de Molinari. Et pourquoi je le souligne? C'est parce que c'est un économiste donc du 19e, début 20e, il est décédé au début 20e, et il a dirigé pendant plusieurs années le Journal des économistes. Et avec Frédéric Bastiat, avec Charles Dunoyer, Auguste Comte et d'autres, il faut savoir qu'ils appartiennent à toute une catégorie d'économistes en France qui, justement, analysaient les politiques publiques. C'est-à-dire que cette idée...
C'est pas nouveau.
C'est pas du tout nouveau. Je n'ai rien inventé. C'est pour ça que je le dis. C'est la seule chose qu'on essaye, effectivement, nous, de faire. Et je pense que c'est vraiment là où on est bon et où on est expert et sérieux. C'est qu'on s'intéresse à des sujets très concrets, comme vous le disiez. On essaye d'être dans l'actualité, on essaye de répondre aux grandes questions d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui nous occupe beaucoup, c'est la crise financière et monétaire. Les questions d'environnement hier, demain, ça sera encore autre chose. Mais on s'inscrit véritablement dans une tradition qui, évidemment, ne peut pas dissocier les phénomènes économiques des phénomènes politiques. Parce qu'en définitive, ce qu'on observe de tout temps, c'est que la sphère économique est largement instrumentalisée et largement utilisée dans le cadre de la sphère politique. Et donc, l'un va pas sans l'autre, quoi. Donc, on est obligé de faire de comprendre qu'en économie, ça passe par la politique aussi.
Alors Cécile Philippe, j'ai quand même une question parce que je pense que les auditeurs, en tout cas les plus avertis sur ces questions, savent qu'il existe quand même d'autres instituts comme l'Institut Montaigne, comme l'IFRAP, Institut Français de Recherche sur les Administrations Publiques, que j'ai moi-même pu inviter et d'autres à Radio Courtoisie. Qu'est-ce qui vous distingue de ces deux instituts, qui eux-mêmes d'ailleurs sont très différents, mais qu'est-ce qui vous distingue, puisque l'Institut Montaigne fait beaucoup d'études et de propositions pour les décideurs politiques et que l'IFRAP fait énormément d'études sur, on va dire, l'efficience du secteur public en France?
Alors je dirais que ce qui nous distingue de l'Institut Montaigne, c'est exactement ça, c'est que nous on ne s'adresse pas spécifiquement aux décideurs politiques. On garde énormément d'indépendance par rapport à tout décideur politique, quel que soit son bord. C'est Sébastien qui disait je siège à gauche quand à gauche ils ont raison et à droite quand c'est eux qui ont raison. Donc nous c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va parfois faire des alliances mais avec des gens avec ceux qui soutiennent ce qu'on pense être vrai, être justifié. On est beaucoup. Donc on garde une grande distance par rapport au monde politique, ce qui d'ailleurs nous distingue encore aujourd'hui de l'IFRAP, puisque l'IFRAP s'est aussi beaucoup impliqué. Je dirais qu'ils se sont un peu transformés de l'institut de recherche au think tank, c'est-à-dire à l'institut qui veut faire de la de la, moi j'appelle ça de la mise en forme de réforme, c'est-à-dire on va vous dire, vous, hommes politiques, comment vous pouvez réformer le système. Oui. Or, je crois que, enfin nous...
Vous êtes plus en amont.
Nous, on est plus en amont. Je pense que ce sont deux choses différentes.
Et d'ailleurs, complémentaires.
Tout est nécessaire, absolument. Il faut absolument de tout pour pouvoir faire avancer les idées. D'ailleurs, c'est probablement une des raisons qui fait que lorsque Margaret Thatcher est devenue Premier ministre, elle a pu mener sa politique parce qu'en fait, elle s'est appuyée sur un ensemble d'organisations qui existaient depuis près de 20 ans en Angleterre. Il y avait l'Institute of Economic Affairs auquel moi je m'associe vraiment. Enfin, on s'identifie largement, c'est-à-dire on fait de l'analyse, on essaye de comprendre tous les secteurs économiques, de l'éducation à la santé en passant par les retraites, etc.
C'est colossal.
C'est colossal. Ils ont mis 20 ans, 25 ans de travaux acharnés jusqu'à ce que ça serve à quelque chose. Voilà. c'est d'ailleurs ce que je m'étais dit que je dirais à nos auditeurs aujourd'hui, c'est que nous on est là pour durer. On est là, toute l'idée d'un institut comme le nôtre, c'est pas d'être là pour 2 ans. On peut pas faire des coups. On est là pour vraiment essayer de s'intégrer dans le paysage et pour qu'un jour au moment où le fruit est mûr, eh bien, ça puisse porter et que des réformes de fond puissent être mises en œuvre. Mais c'est complémentaire d'instituts type l'IFRAP, où, si je prends l'exemple de l'Angleterre, lui, c'est l'Adam Smith Institute, donc de leur fameux économiste, qui, lui, était exactement dans le... Bon, vous voulez faire maintenant, vous voulez réformer, alors on va vous dire comment. Mmh. On a la boîte à outils pour trouver les meilleures astuces, les meilleurs compromis. Donc, ils sont, vous voyez, davantage dans le compromis politique. Ils sont beaucoup plus dans
le... Mais on a quitté la sphère de la recherche.
Exactement. On considère à ce stade que la recherche a été faite et qu'on peut y aller. Moi, je considère qu'en France... et c'est pour ça que je me suis positionnée sur ce domaine, je considère qu'il n'y a pas assez de recherche, justement. Il n'y a pas assez de compréhension économique, des phénomènes économiques, pour pouvoir passer directement au do tank. Et en plus...
Alors, en français, dans le texte, quand même, à des organisations qui font.
Voilà,
qui réalisent, qui proposent,
voilà, exactement.
Qui appuient, qui...
Absolument.
Bon, il y a le libre journal des contribuables, maintenant Radio Courtoisie, où clairement, là, on est dans un groupe de pression qui vise à contrebalancer d'autres groupes de pression. Et,
voilà, alors et, là, on voilà, est... Voilà.
C'est encore
et on est encore dans autre chose.
Et on est encore au-delà, puisque c'est la société civile... qui essaye de peser face aux politiques en disant j'existe, voilà. Écoutez-moi.
Et je dirais que dans ce cas-là, et c'est probablement pas un hasard pour si je suis là aujourd'hui, c'est que nous, on essaye aussi d'être ce groupe, on essaye de contribuer à faire partie de ce groupe de pression. Et dire, vous savez, il y a des gens qui pensent autrement, qui pensent que toute cette gabegie, si on va utiliser le terme, cette gabegie financière, ça peut plus durer. Et donc, ils essayent de contrebalancer d'autres courants qui diront, non, mais il faut continuer à dépenser, c'est la seule solution. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, quoi.
Il y a deux choses, je crois. C'est que il est nécessaire de faire des études pour pouvoir démontrer des prises de position. Et il y a un deuxième élément quand même qui est la marque de nos sociétés modernes qui n'ont pas connu la guerre depuis longtemps, c'est l'extrême complexité de nos sociétés et de ces mécanismes qui rendent difficile la compréhension immédiate des effets d'une décision politique ou administrative.
Absolument.
Et ça c'est un vrai enjeu, à gauche comme à droite d'ailleurs, c'est un vrai enjeu pour le politique, c'est continuer à avoir la maîtrise de ces décisions. Enfin, moi, il me semble. Et de ce point de vue-là, je crois qu'aujourd'hui, le personnel politique ne fait pas suffisamment l'effort au moins de regarder ce qui se produit en termes de recherche et donc est de moins en moins en capacité, quelle que soit d'ailleurs son idéologie, de peser sur le système.
Oui, mais c'est ça qui est paradoxal, finalement.
Oui.
Mais parce qu'on passe de... Enfin, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.
Oui, pour reprendre le terme de Bastiat.
Finalement, c'est toujours ça, c'est qu'il y a les effets de court terme qui sont en général visibles, mais même pas tous. Et puis après, il y a les effets de plus long terme qui, eux, souvent passent complètement inaperçus. Et je dirais que c'est là la différence entre le monde économique et le monde politique. Et malheureusement, c'est ça aussi la distinction qu'on peut faire entre différentes politiques publiques. je dirais, entre celles qui favorisent l'intérêt général et celles qui favorisent des intérêts particuliers, parce que, justement, dans la sphère politique, on est obligé d'observer aujourd'hui que ces politiques ne favorisent pas forcément l'intérêt général et ont une vision très court-termiste, électoraliste, et qui n'a in fine pas l'objectif de servir la prospérité. Et c'est un peu ça qui rend l'action d'instituts comme le mien nécessaire. Parce que sinon, on risque de passer complètement à côté de phénomènes cruciaux et de mal interpréter. Et c'est ça le vrai challenge. Pour être concret, on risque de mal interpréter les problèmes et de trouver des solutions qui vont ne faire qu'empirer la situation. Je dirais que la crise financière telle qu'elle est gérée depuis le début donc de la crise des subprimes, donc de l'immobilier aux États-Unis, 2007, c'est exemplaire d'une mauvaise interprétation de la crise
et de ce qu'il ne faut pas faire
et de ce qu'il faut pas faire et de la façon dont, vous voyez, le pompier pyromane, celui qui jette de l'huile sur le feu, voilà. On est exactement là-dedans.
Philippe, nous allons y revenir, mais terminons peut-être sur la présentation de cet institut en nous expliquant quels sont ses moyens et en nous donnant peut-être les coordonnées à la fois postales, téléphoniques et internet auxquelles les auditeurs intéressés pourront vous joindre.
Oui, alors vous pouvez donc nous écrire à partir de notre site qui est www.institutmolinari.org. On est à la fois un institut de droit belge et un institut de droit français, c'est-à-dire qu'il y a à la fois IEM France et IEM Belgique, parce que j'ai créé l'institut initialement en Belgique,
d'accord.
Où j'ai découvert que le droit des associations était beaucoup plus souple que celui du système français. Donc, mais c'était un simple concours de circonstances après mon expérience aux États-Unis dans un institut de recherche. Et donc, on peut nous écrire soit à notre adresse belge qui est sur notre site, soit directement. Vous voulez que je donne directement
l'adresse ? Oui, volontiers, pour les auditeurs.
Soit donc au 1 rue Édouard Branly à Issy-les-Moulineaux, au 92-130.
D'accord. Et peut-être
et
un numéro.
Et mon email, oui. cécile@institutmolinari.org.
D'accord. Nous rappelons quand même que sur les moteurs de recherche, vous êtes assez bien référencé.
Oui, absolument. On nous trouve directement.
Voilà, Institut Molinari, avoir remis au goût du jour un économiste un peu oublié à des vertus modernes.
Absolument, absolument.
Notamment avec Internet. Et peut-être nous parler un petit peu de votre organisation, parce que j'imagine que vous n'êtes pas toute seule à assurer, encore une fois, le lourd travail d'études et de monographies qui est réalisé.
Non, je ne suis pas toute seule. Au contraire, je cherche à m'entourer d'experts. Ce que j'ai réussi à faire en découvrant donc des personnes comme Valentin Petkanchin, que vous retrouverez sur le site, Guillaume Villemet, qui a énormément écrit. Bon, ça, c'est pour les Français, mais en fait, je m'intègre aussi dans un réseau d'experts étrangers, puisqu'on fait appel à des experts au Canada, Martin Maas, avec d'autres en Suisse, Pierre Bessard, etc. Et donc, dès que je trouve une perle, je dirais, eh bien, j'essaye
de l'intégrer,
de la faire contribuer à des travaux, etc. Parce que c'est vrai que c'est une grande... je dirais que c'est un des challenges de l'Institut, que de trouver des gens qui sont capables de faire de l'analyse économique, mais qui sont aussi capables de la porter au niveau du grand public, sans en perdre toute la substance. Et c'est ça toute la difficulté, hein, c'est de parler à un public non expert mais intéressé, de façon simple, concise, précise. Vous voyez, nos publications, donc passons aux moyens, une fois que donc, j'ai ces chercheurs qui sont capables donc, de comprendre la réalité, de l'analyser et puis de la transcrire dans un langage clair, eh bien, on le fait à travers des publications de toutes sortes. Notre publication phare, ce sont nos notes économiques qui sont en 4 pages, avec 2 niveaux de lecture, 15 minutes pour les 4 pages, et puis... Allez, 1 minute 30 pour tous les passages en exergue qui donnent les éléments à retenir du papier en question. Chaque note est vraiment fondée sur cette idée qu'on remet en question un mythe à propos d'une question particulière, qu'il s'agisse de la santé, de la poste, des télécoms, de l'environnement. Et puis après, on décline toute une panoplie de papiers plus courts, plus facile à lire, donc des articles que nous publions dans la presse française, francophone, puisqu'on publie aussi en Belgique, en Suisse, parfois au Canada. dans la presse aussi anglo-saxonne. Et puis ensuite, on a des blogs. Donc, on fait encore un modèle plus court, modèle de brève, où là, on prend vraiment la substantifique moelle du papier avec le chiffre important et l'idée importante. Et on la publie sur nos deux blogs, puisqu'on en a un sur la Provence. Donc, le journal assez bien diffusé dans le sud. Mmh. Et puis, sur le journal du dimanche. On en a aussi sur les Échos, qu'on va commencer à développer. Et puis sur lemonde.fr aussi, on essaye de vraiment pousser toutes nos...
De diffuser,
exactement, puisque nos notes économiques ou nos cahiers de recherche, qui sont, je ne les ai pas mentionnés parce qu'on en fait moins, c'est vraiment quand on a un sujet très dense, type là le prochain, ça serait probablement les hôpitaux publics en France, parce que c'est vraiment un énorme sujet, donc on ne peut pas le traiter en 4 pages, mais ce n'est pas notre format préféré, c'est très long. Aujourd'hui on est dans la formation courte. Il faut aller droit à l'essentiel. Et c'est vrai que si on veut être lu, les gens, on doit leur offrir des choses relativement courtes. Et toute la difficulté, encore une fois, c'est de faire court, mais de garder les éléments importants à diffuser et de pas donc céder à la facilité parce qu'il faut que ce soit court. Donc c'est tout le challenge. Hein.
Le défi. Nous allons devoir mettre sinon beaucoup d'argent dans ce cochon rose qui veille à la francophonie. Et pour m'éviter de très nombreuses lettres d'auditeurs sur le sujet. Alors, pour revenir, Cécile Philippe, sur notre sujet, peut-être serait-il beau pour nos auditeurs de présenter ce qu'est déjà une politique publique, parce que le terme n'est peut-être pas très clair pour un certain nombre d'entre nous. Qu'est-ce qu'une politique publique ? Qu'est-ce que l'on met sous ce terme ?
Voilà, alors comme je crois qu'on l'a un peu évoqué là précédemment, donc une politique publique, c'est véritablement une action du gouvernement dans un domaine particulier, ou dans l'économie en général. Donc vous avez, moi je les distingue, je les mets en deux niveaux. Je dirais que ce sont les à la fois les règles décidées par le pouvoir politique. Je rappelle quand même que le pouvoir politique, ce sont notamment les pouvoirs régaliens, notamment le fait de faire le droit des affaires, le droit économique. Donc ce sont l'ensemble des règles qui créent l'environnement dans lequel on peut faire des affaires, et donc dans lequel je mettrais par exemple le respect des contrats,
le droit commercial.
Voilà. Alors, j'évite d'utiliser le droit commercial parce que, justement, ce qu'on observe, c'est que dans le droit commercial, après, il y a toutes sortes de particularités et de choses qui favorisent des intérêts particuliers. Et ça, c'est plutôt des choses que je mets dans la deuxième partie des politiques publiques qui, elles, s'adressent vraiment à un secteur spécifique, vise à le réglementer à travers des contrôles de prix, vous disent comment vous pouvez faire votre business, vos affaires, etc., etc. Donc vous avez à la fois dans les politiques publiques les règles générales de vie en société, je dirais, et puis après vous avez le second volet qui est celui du micro-management de tel ou tel secteur. Et je dirais que c'est justement cette confrontation-là entre les deux types de politiques publiques qui crée une véritable tension.
Parce qu'en général,
en général, c'est ce qu'on observe. C'est-à-dire que c'est tout le problème, c'est qu'il est rare.
Ce n'est pas intuitif.
C'est pas absolument intuitif.
On considère que de l'un procède l'autre.
Et oui, et c'est malheureusement pas le cas. C'est-à-dire que souvent, on se rend compte que les règles qui vont être donc décidées pour un secteur sont spécifiques à ce secteur et en général vont à l'encontre des règles générales. Des contrats. Vous voyez, par exemple, le fait qu'on vous dise... le fait que, par exemple, là, je prends le premier exemple qui me vient à l'esprit. C'est même pas un exemple qu'on a travaillé, mais par exemple, le fait qu'on décide que la participation va pouvoir être débloquée. Vous savez, c'est une décision politique qui rompt toutes sortes de contrats qui avaient été passés entre des individus, vous voyez ?
Oui.
Et là, vous avez véritablement une
oui, une dichotomie entre...
Une dichotomie entre ce qui a été décidé volontairement entre des individus et d'autre part, une action politique qui est prise en général pour favoriser un certain nombre d'intérêts, justement, on va dire, particuliers. Et la question, c'est est-ce que finalement, c'est favorable à l'ensemble de la société, est-ce que c'est bon de créer cette incertitude contractuelle. Donc c'est vraiment ça l'action publique.
Alors pour nos auditeurs, est-ce qu'on pourrait leur donner une sorte de clé, parce que tout cela est très compliqué, parce qu'évidemment le politique ou l'administratif, l'administration se part toujours des oripeaux de l'intérêt général, même lorsqu'il s'agit du plus médiocre intérêt catégoriel. Donc tout le monde est pour l'intérêt général, tout le monde est pour la paix contre la guerre, etc. Mais comment, pour nos auditeurs, essayer de leur donner une clé qui leur permette de distinguer entre une politique publique d'ordre général et qui pose des principes, et qui donc, ces principes peuvent être discutés, mais cette politique est nécessaire, enfin cette création de droits et de règles est nécessaire, de politiques publiques particulières dont généralement l'effet est néfaste à court, moyen ou long terme. Comment un petit peu comme ça, très généralement, lorsque les auditeurs voient des annonces à la radio ou à la télévision, faire comme ça ce tri ?
C'est vraiment difficile de le faire sans prendre des exemples particuliers parce que en dehors de ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire que en gros il y a un principe, si on pense qu'il est valable, c'est celui de faire respecter les droits de propriété des individus. Qui sont donc parce que ils sont fondateurs de responsabilité, et c'est pas non plus juste sorti du chapeau, mais parce que pour que les individus vivent ensemble, il faut qu'ils soient responsables. Pour qu'ils soient responsables, ils ont des droits, et si on respecte ces droits,
ça crée des devoirs
exactement. Et donc ça, de là découle tout un ensemble de choses et constitue d'ailleurs les bases de notre société. Enfin, je veux dire, on pourrait pas vivre dans notre société s'il n'y avait absolument plus aucun droit respecté entre individus. Et là-dessus, après, se superpose ce que moi j'appelle la réglementation. Et la réglementation en tout genre. Prenons l'exemple du... opposons principe de prudence à principe de précaution. Vous avez dans un cas le principe de prudence, qui est vraiment fondé sur le respect des droits de propriété et les sanctions qui vont avec. Et de l'autre côté, vous avez le principe de précaution, qui est le principe qui a été donc intégré donc à la Constitution française en 2005, sous la présidence de Jacques Chirac, qui est purement une réglementation décidée par des pouvoirs politiques. Et qu'est-ce qui se passe dans ce truc ? C'est qu'en définitive, vous avez une notion donc, concrète, qui est celle de risque, à laquelle les êtres humains sont confrontés tous les jours, le fait de naître. Et d'ailleurs, je discutais récemment avec quelqu'un qui me disait, et moi j'ai un super exemple par rapport au principe de précaution, c'est finalement, si on applique le principe de précaution, on ne devrait pas laisser les enfants naître.
Ah non, trop dangereux.
Trop dangereux.
En plus, certains meurent.
Exactement. Et puis ils vont
tous à la fin.
Exactement, c'est ça. Et en plus, ils vont faire un truc qu'ils n'ont jamais fait avant, c'est respirer. Alors, comment ça se fait qu'ils puissent respirer? Parce qu'ils ne l'ont jamais fait avant, c'est extrêmement risqué.
Et puis, pour certains d'entre eux, à un moment, ils vont faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, c'est travailler.
Aussi. Et ouais. Donc, vraiment, la vie, c'est un risque
permanent.
Permanent. Ouais. Et donc, on fait face tous à. Même moi, j'aime utiliser le terme plus que de risque, même d'incertitude. Parce que c'est l'incertitude irréductible. C'est l'incertitude celle que, justement, les économistes ne devraient pas pouvoir modéliser. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, comme pourront le constater les auditeurs sur notre site, nous ne faisons pas de modélisation parce que l'incertitude ne se modélise pas. Elle est intrinsèque à l'être humain. Et
comme en physique des particules, où le principe d'incertitude est un très grand principe de tout ce qui est physique moderne. Alors, je ne sais pas si elle est quantique ou autre, mais c'est le principe d'incertitude est un très, très grand principe sur lequel se fonde toute une partie de la physique moderne.
Ouais, et ben voilà, il y a toute une partie, des pans entiers de l'économie qui reposent sur cette notion extrêmement importante d'incertitude et qu'on différencie du risque. Alors vous voyez, on rentre dans des trucs, ça semble hyper abstrait.
Cela va nous servir lorsqu'on va analyser la crise financière.
Voilà, exactement. Mais la notion de risque, c'est une notion qui a été introduite par des économistes afin de pouvoir la modéliser dans des modèles mathématiques. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le risque, c'est cette idée qu'on pourrait connaître, qu'il est possible de connaître l'ensemble des risques à laquelle notre action est confrontée.
Mais on peut peut-être, on peut peut-être les minimiser.
Oui, mais
les circonscrire.
Oui, mais déjà de penser qu'on peut tous les connaître.
Ah non, c'est faux. Quelle prétention.
Et voilà. Et c'est toute la. Et je dirais que c'est toute la. Quand on arrive à faire cette distinction, eh bien, on arrive aussi à distinguer le principe de prudence et le principe de précaution. Le principe de prudence qui est fondé justement sur le respect des droits de propriété et les responsabilités qui vont avec, c'est-à-dire quelqu'un qui met en œuvre une action, eh bien, doit assumer les conséquences de ses actes. Et peut prendre effectivement un certain nombre de mesures pour se protéger, comme
alors que le principe de précaution pourrait aller jusqu'à lui interdire, en imaginant d'éventuelles conséquences
qui ne sont absolument
infinies,
pas infinies.
En fait, je vois quelqu'un qui prend sa voiture sur le bord du trottoir et je lui dis stop. Dans 3 ans, vous allez tuer à 500 km d'ici une petite fille. Arrêtez immédiatement.
Absolument. Et donc, le principe de précaution, la gravité du principe de précaution, c'est qu'il ne tient compte que des risques associés à une action particulière. Mais il ne prend pas en compte les risques immenses, parfois. Parfois non, mais parfois ce sont des risques immenses au fait de ne pas agir.
De ne pas faire. Oui.
Or, rappelons quand même que ne pas agir, c'est mourir. Enfin, j'essaye de pousser exprès le raisonnement jusqu'au bout, mais ultimement, ne pas agir, c'est mourir. Et donc, pourquoi je dirais que le principe de précaution est inférieur au principe de prudence? C'est que justement, le principe de prudence est lié à des actions individuelles responsables. Le principe de précaution, il est aux mains de bureaucratie, d'administratif, de politique, dont les objectifs, justement, encore une fois, ne sont pas forcément ceux de l'intérêt général. Et soyons concrets. Enfin, je veux dire, le problème d'entités gouvernementales, c'est que souvent, elles sont sujettes à une chose et sensibles à une chose, comme, parce qu'elles favorisent leur propre intérêt, c'est normal. C'est celui d'éviter à tout prix le scandale. Mais c'est pas parce que, parfois, on a un scandale que la chose en question qui a provoqué le scandale est mauvaise en soi. Vous voyez, le risque peut se concrétiser et dans ce cas-là, il faut assumer ses responsabilités. Mais vouloir absolument supprimer le risque, c'est même nous faire encourir encore plus de risques.
Alors revenons, si vous le voulez bien, quand même à cette analyse qu'on essaye de faire des différents types d'actions publiques, de politiques publiques. On peut quand même constater dans nos sociétés occidentales que depuis au moins 1945 et probablement depuis plus d'un siècle, une tendance de long terme, avec des forts flux et reflux, mais une tendance de long terme, d'un accroissement quasi continu de l'influence de la politique publique, du politique et de l'administration dans la réglementation de nos vies.
Absolument.
Quel regard portez-vous sur cette tendance ?
Mais je pense que c'est probablement une des raisons pour laquelle j'ai créé cet institut. Et je pense que ce n'est pas un hasard qu'il y ait des gens comme moi qui se disent « il y a quelque chose qui ne va pas là
enfin, ». Mais pourtant, ça va de pair avec l'accroissement de la prospérité. Donc, est-ce que c'est purement…
Je dirais que c'est l'accroissement de la prospérité qui a permis notamment… Je pense véritablement que l'histoire du XXe siècle, si on le prend de ce point de vue-là, si on le prend du point de vue de l'action publique, c'est que c'est une croissance permanente.
C'est l'impression que j'en ai aussi.
Voilà. Ouais. Alors, effectivement, vous disiez...
Et est-ce une mauvaise chose ?
Je crois qu'on va le savoir, là, si c'est une mauvaise chose, parce qu'on est en plein dans une grave crise.
L'heure de vérité a sonné.
C'est la question que je me pose. Je ne voudrais pas dire, parce que les choses peuvent toujours être reportées et peuvent toujours être différentes, parce que c'est très difficile d'arriver à tenir compte de l'ensemble des éléments qui peuvent agir dans une société. Regardez, on aurait dû connaître probablement, les États-Unis n'auraient probablement jamais pu s'endetter dans de telles proportions si dans le même temps, ironie de l'histoire, la Chine connaissait à ce moment-là un
très juste,
complet virage dans ces politiques publiques, justement. Eux, passer du communisme à beaucoup plus de liberté. C'est pas encore la panacée, mais la différence.
On a changé de monde quand même.
Ils ont changé de monde complètement et ils continuent à changer de monde tous les jours. Et l'un a permis l'autre. Alors que normalement, probablement, la politique expansionniste des États-Unis et d'endettement, surtout, n'aurait jamais pu avoir lieu. Donc, vous voyez, c'est tout ça pour mettre les choses en perspective. Oui. C'est difficile de faire trop de prospective, mais disons que là, on peut vraiment se demander...
Votre modestie vous honore.
Non, mais c'est vrai, hein, un économiste, quand on est économiste, on essaye de s'attacher aux conséquences de quelque chose qui vient d'être décidé. Après, comme vous le disiez en introduction, on est face à des phénomènes complexes. Et donc, il faut toujours se rappeler qu'on est face à des phénomènes complexes et qu'il y a des éléments dont on peut ne pas avoir tenu compte et qui vont quand même avoir à leur tour une influence et modifier le résultat final. Ça ne veut pas dire que l'analyse initiale était erronée. C'est simplement que finalement, en cours de route, d'autres éléments sont entrés en action et on contrecarré le résultat final. Alors, il faut espérer toujours pour le mieux. Hein. Et le fait que la Chine se développe et que ça devienne un pays beaucoup plus orienté vers l'innovation, le respect...
C'est au moins bon pour les Chinois.
C'est au moins bon pour les Chinois. Je pense que c'est bon aussi pour nous, parce que quand même, il faut quand même se rendre compte que je pense qu'on aurait moins bien vécu, hein, justement le poids de ces politiques publiques sur la créativité, sur l'emploi, sur l'innovation dans nos sociétés, si on n'avait pas pu bénéficier dans le même temps de toutes sortes de produits beaucoup moins chers et qui ont permis au pouvoir d'achat des Français, soyons clairs, d'être plus élevé que ce qu'il aurait été autrement. Donc, regardons le vrai problème, et je reviens à votre question, est-ce un mal, cette croissance permanente de l'État? Je dirais oui, parce que justement, au fur et à mesure que l'emprise des politiques publiques devient colossale, eh bien, ça veut dire que l'initiative privée diminue. Et derrière l'initiative privée, vous avez la créativité, vous avez l'innovation, vous avez la création de richesse. Et parce que, rappelons-le, et parce que j'ai l'impression que parfois il faut le rappeler, un État ne vit pas de ce qu'il produit. Il vit de ce que nous produisons et que nous donnons à l'État.
Oui, je pense que les gens ne comprennent pas que ce n'est pas parce qu'un fonctionnaire est totalement improductif qu'il est inutile.
Oui.
Hein, il faut bien faire la distinction, mais il faut toujours rappeler qu'un fonctionnaire est improductif en ce sens qu'il prélève sa richesse de ceux qui produisent dans la
exactement.
Sphère économique, même si ça ne veut pas dire qu'il est inutile. J'insiste
exactement.
Lourdement.
Exactement, parce qu'on peut avoir tous les débats sur justement le rôle régalien de l'État, etc., sur toutes sortes de productions qui peuvent être, dont on peut en tout cas considérer et argumenter et débattre qu'elles doivent être absolument produites par l'État, mais n'oublions jamais que toute ressource utilisée par l'État a été substituée,
a été produite
par ailleurs. Et que le jour où vous avez plus ou que vous avez tellement atteint les
limites du prélèvement.
Exactement. Les incitations dans lesquelles les gens peuvent avoir encore envie donc de travailler. Parce que, on a envie de travailler quand on tire aussi les fruits de son travail. Donc quand vous avez une société qui de plus en plus vous empêche, par la réglementation, de penser le futur. Parce que c'est ça aussi, hein, vous voyez, c'est là où on touche presque à la philosophie de la vie. C'est-à-dire que n'oublions pas que l'économie, c'est aussi tout ce domaine de la vie des gens dans lequel on réalise des projets, on réalise des œuvres entières, et que trop de réglementation tue la créativité humaine, tue l'innovation, et ça tue des projets humains. Et donc, au bout du compte, vous avez moins d'innovateurs et vous avez moins de gens qui veulent travailler. Et donc, à la fin, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un État qui n'a plus les moyens, de toute façon, de sa politique, puisqu'il a tué la poule aux œufs d'or, comme on dirait.
Alors, Cécile Philippe, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances actuelles et peut-être futures des politiques publiques, en France et dans le monde d'ailleurs? Vers quoi on se dirige?
Alors,
si on faisait un petit peu de prospective.
Oui, si on fait un peu de prospective, je pense que là, on va vers. Depuis, donc, en particulier, le début de la crise, on a une accentuation donc de l'interventionnisme, de l'étatisation de nos économies.
Mais dans tous les domaines ou dans certains domaines?
Dans pratiquement tous les domaines. Est-ce que je peux voir nous avons vraiment trouvé au sein de l'Institut, quand on analyse la situation, que parce que notamment la crise financière et monétaire est à notre avis mal interprétée, elle est considérée dans la majorité des cas comme le fruit ou le résultat de la cupidité des gens, du marché. Hein. C'est vraiment le marché serait à l'origine donc de cette crise, et par conséquent, en fait, seuls les États semblaient pouvoir résoudre cette crise. Et donc on assiste vraiment à une mainmise de l'État sur nos économies. Mais dans le même temps, et alors pour le compléter, ça veut dire aussi que il faut trouver, on l'a bien vu, il faut trouver de nouvelles ressources. Donc on parle de nouveaux impôts dans un pays qui déjà, comme celui de la France, est extrêmement sollicité du point de vue des impôts. Là, je lisais récemment que le jour de libération fiscale est fixé au 28 juillet. C'est dire que pendant plus de 6 mois, chaque Français dans ce pays travaille pour payer ses impôts plutôt que de travailler pour
payer, la dépense publique au sens général.
Bon, sachant que en fait, ça ne couvre pas la totalité de la dépense publique,
oui,
puisque il
problème.
Faut l'emprunter la crise financière. Là, on débouche sur les problèmes de la crise financière. Mais donc voilà, je dirais que oui, depuis 2-3 ans, je dirais qu'on a une accentuation. Maintenant, la vraie question, et c'est celle qui est vraiment fascinante aujourd'hui, c'est que on peut se demander si on touche pas quand même les limites de l'État-providence, puisque l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire du développement de l'État-providence, de sociétés qui, justement, deviennent prospères, dans des sociétés qui enregistrent des gains de productivité, mais qu'aucune autre société
considérable dans l'histoire.
Absolument.
Et qui, inégalée dans l'histoire du monde.
Inégalée, semble-t-il, dans l'histoire du monde.
En tout cas, sur une période aussi courte.
Exactement. Sur une période aussi courte, c'est extraordinaire. On tire les fruits de la révolution agricole, de la révolution industrielle, puis après, vous avez la révolution des services, informatique, etc. Et ça semble, mais les gains sont infinis.
Et donc, le prélèvement peut se faire dans une moindre douleur.
Exactement. Je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que chaque être humain, au moins dans les pays développés, est, je dirais, associé à tellement de capital accumulé par les générations antérieures qu'il est extrêmement productif et qu'aujourd'hui, un État peut lui prélever 50% de ce qu'il produit sans néanmoins nuire complètement et supprimer complètement sa capacité de survie. Si on avait fait ça au début du siècle, mais c'en était fini de la prospérité du pays.
Pour moi, il y a des événements qui s'apparentent à des fortes ponctions sur les forces productives. Ça s'appelle la guerre. Mm-hmm. Quand vous avez X% d'une classe d'âge qui meurt et l'ensemble des ressources qui est tournée vers la guerre sert à faire quelque chose qui n'a aucun intérêt puisque ça sert à détruire de part et d'autre de la richesse. On peut imaginer ça comme un impôt exceptionnel que nos sociétés payent à l'histoire régulièrement. Alors, je ne sais pas si économiquement c'est très juste, mais tout ça pour faire comprendre à nos auditeurs que, à la fin, la vraie question, c'est toujours la même. C'est comment une société peut-elle assurer à ses membres le vivre, le coucher, le bien-être notamment en termes de soins, le transport,
absolument,
etc. C'est
absolument.
Ça. Et il y a bien un moment, il faut produire le médicament, le TGV
et
le plat qui est mangé dans l'assiette. Et tout cela nous est loin d'être des pures élucubrations d'économistes.
Non, et là, vraiment, vous mettez le doigt sur la chose importante et qui, à mon avis, peut aussi expliquer cette croissance, on a l'impression presque sans limite, de l'État-providence. Et par État-providence, j'entends bien, on va donner tout à tout le monde tout de suite. C'est cette idée, hein. Et je l'ai encore entendu, j'assistais à une
conférence. Oui, l'impôt négatif universel, par exemple, on pourrait donner 1000 euros par mois à tout le monde.
Voilà, c'est cette idée que, en fait, on aurait transcendé la rareté. Or, justement, je crois qu'on est en train de redécouvrir à travers cette crise. Et c'est pour ça que s'il y a un phénomène positif à cette crise, eh bien, ça sera bien celui-là, c'est de rappeler aux individus que nous sommes. Et je crois que ça va un peu, on va un peu le sentir, hein, on va le sentir dans nos poches.
Nous-mêmes, oui, oui.
Voilà, et on va sentir que la rareté existe, n'a pas disparu, et qu'en dépit des grains de
produits... C'est la malédiction de l'homme depuis qu'il a quitté le jardin d'Éden.
Exactement,
hein.
C'est bien
la vérité universelle.
Et oui, c'est ce qu'on disait à propos de l'enfant qui naît, il va devoir travailler. Et oui, il va devoir travailler parce que sinon, il n'a rien pour
subvenir. Il fera l'expérience de la rareté.
Et voilà, exactement. Et je pense qu'effectivement, on est en train peut-être de s'ajuster à des évolutions tellement rapides en matière de gains, de productivité, d'une société qui s'est tellement développée, tellement enrichie, et qui a peut-être cru au mythe de l'abondance et de l'absence de rareté, ce qui n'existe pas.
Pause musicale. Chers auditeurs, nous nous retrouvons donc pour la suite de cette émission sur les politiques publiques en France et dans le monde, avec une analyse des réponses qui pourraient être apportées face aux enjeux et aux défis de notre temps. J'ai le plaisir donc d'être en compagnie de Cécile Philippe, qui est la présidente de l'Institut d'études Molinari, donc qui est un institut de recherche justement sur l'ensemble des politiques publiques et des choix qui sont faits par différents acteurs, dont l'État, dont l'administration. Et justement, à propos d'État et d'administration, il est peut-être temps de passer à la situation de la France, qui nous préoccupe à double titre, d'une part parce que nous sommes français, mais aussi parce que nous sommes dans une situation particulière. Je crois que ce n'est pas faire mystère que de dire que nos auditeurs sont particulièrement inquiets de l'impéritie, dans différents domaines, de l'impéritie de nos différents gouvernements depuis un certain nombre d'années. Et je crois que s'il y a un pays dans lequel, depuis 1945, l'interventionnisme de l'État s'est constamment développé, c'est bien celui de la France. Et j'aimerais que vous nous fassiez peut-être un petit état des lieux, là aussi en évoquant quelques perspectives, positives ou négatives, je ne sais pas.
C'est un peu le problème de faire de l'analyse des politiques publiques, c'est que finalement on se focalise beaucoup sur ce qui justement est de notre point de vue négatif. Donc c'est vrai qu'on a plutôt un regard... un regard pas pessimiste, mais un regard finalement critique. De ce qui se passe, enfin de ce qui s'est passé effectivement depuis 1945. Il faut quand même rappeler qu'effectivement 1943, donc c'est la création du système de retraite par répartition. Donc vaste intervention. On est pour, on est contre, mais c'est une vaste intervention des gouvernements dans la vie des individus, dans un aspect très important, hein, qui est celui de la vie après le travail. Donc c'est quand même une dimension très importante. Pour la petite histoire, rappelons quand même que ce système a été mis en œuvre, notamment du fait de la ruine des rentiers.
Hein. Exactement, il ne faut pas oublier que c'est les obligations...
Que c'était déjà une intervention de l'État.
Ah oui, ça je ne savais
mais
pas.
Mais oui, parce qu'en fait, l'argent des rentiers a été l'argent, disons, des épargnants. Puisque c'est ça le vrai terme, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des épargnants qui étaient obligés de placer...
Le crédit rentier, comme on disait autrefois.
Voilà. Qui étaient obligés de placer leur épargne dans des bons du Trésor. Et obligé. Je dis à nos chers, oui, il y avait une obligation.
Ah, je ne
et
savais pas.
Et ces bons du Trésor ont servi à financer la guerre.
Et donc et l'inflation,
l'inflation a complètement laminé.
Oui.
Et si j'ai un conseil à faire à nos auditeurs aujourd'hui, c'est de se méfier des bons du Trésor actuellement, parce que je crois qu'on est dans quelque chose de potentiellement similaire à cette époque. Mais c'était juste une parenthèse que je referme. Toujours est-il que donc on a assisté à une véritable ruine de toute cette population à qui on a proposé, évidemment, et on a offert, eh bien, de financer les retraites grâce à la production des générations qui leur succédaient. Tout allait bien tant que la démographie allait dans le bon sens. On constate aujourd'hui que finalement, le système n'est pas si pérenne et que les droits que les gens pensent avoir acquis, on peut se demander qui va payer finalement. Donc ça, c'est un des aspects. Ensuite, vous avez 1945-1946, la création de la sécurité sociale maladie. Pareil, progressivement, vous allez avoir tout le secteur de la santé après celui des retraites, qui devient donc un pan entier de l'action publique avec un monopole dans l'assurance maladie. Ça, ce sont donc deux aspects. Autre chiffre important pour donner un peu une perspective, depuis 1973, aucun budget français n'a été en équilibre. Aucun. Donc, vous voyez, maintenant, ça...
Depuis près de 40 ans.
Depuis près de 40 ans. C'est pour ça que ça fait quand même une spécificité française. Hein.
Et là, ce n'est pas le cas chez nos voisins.
Pas chez... En tout cas, prenons le cas du Canada. On s'y est intéressé récemment parce que, justement, on se posait la question, est-ce que, finalement, c'est possible de réduire les dépenses publiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste? Eh bien, il y a un cas, et en fait, il n'est pas le seul. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Mais le cas du Canada a attiré notre attention. Puisque dans les années 70, ils avaient atteint un niveau d'endettement qui était supérieur à 100% du PIB et ils ont fait machine arrière. Et ils ont vraiment...
Donc c'est possible.
Donc c'est possible. Le problème,
supérieur
c'est que...
à 100%, rappelons que nous sommes à 80%.
Voilà, on vient... Les
derniers
enfin,
on est passé de 65 à 80 en deux ans et demi.
Voilà, je vois que vous avez bien vu les derniers chiffres du rapport de la Cour des comptes.
Qui ne peut les voir, d'abord, qui peut ne pas vouloir les voir et qui peut les voir sans effroi.
Absolument. Et ça... Et je le dis, je le précise, je veux pas que on se dresse les cheveux sur la tête, mais c'est sans prendre en compte la dette implicite des États. J'ai commencé par parler sciemment des dettes des retraites. Ça ne tient pas compte de la dette des retraites et c'est pour ça qu'on arrive parfois à des chiffres.
C'est pas d'une dette pour les retraites, c'est un engagement.
Voilà. Alors
futur
après, on pourra toujours renier cet engagement, évidemment.
Voilà. Mais c'est un engagement contractuel.
Pas contractuel, non, c'est tout le problème. Et c'est tout le problème de la question, c'est qu'en fait, aucun contrat n'a été passé.
C'est un engagement implicite, c'est un contrat implicite.
C'est ça.
Tandis que l'obligation, qu'elle soit d'État ou une obligation privée, est un contrat explicite, lui.
Oui, absolument. Là,
ce sera peut-être pas mieux tenu, ça, mais...
Exactement. Et je dirais que quitte à choisir, il vaudrait mieux trouver un moyen de financer au moins une grande partie des retraites et d'assurer des soins de santé et de trouver les moyens de réduire par ailleurs.
Sursauter, Cécile Philippe. Comment une libérale peut préférer le non-respect d'un contrat écrit à un contrat non écrit?
Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un contrat que vous passez avec un État qui vous dit « je vous donne un droit à l'argent que je prélèverai demain sur les générations futures ». c'est difficile. Hein. C'est le même type de contrat. Et c'est pour ça que je les compare. C'est-à-dire que quand vous passez un compte, et ça nous ramène à ce que nous avons, à ce dont nous avons discuté en première partie, il faut toujours se souvenir qu'un contrat entre un État et un individu n'est pas de la même nature, je dirais, qu'un contrat entre un individu et un individu. Puisque l'État ne vous fait des promesses qu'à partir de ce qu'il sera capable ensuite de prélever. Alors que...
C'est un peu vrai d'une entreprise aussi, lorsqu'elle émet des titres actions ou obligations, c'est un pari sur sa capacité à honorer ou ses engagements.
Pour l'actionnaire, absolument. Mais pour l'emprunteur, normalement, il y a une obligation. L'actionnaire prend le risque d'être ruiné si effectivement...
Normalement, des taux un peu supérieurs à celui des États.
Absolument, absolument. Et ce qui d'ailleurs peut nous poser un certain nombre de questions sur le sauvetage des banques et sur le fait que les actionnaires auraient peut-être dû être considérés comme responsables
demander en effet à ceux qui étaient censés porter le risque, c'est-à-dire les actionnaires.
Absolument. C'est une question légitime et qui nécessitait de.
Mais je fais juste une parenthèse. Je fais juste une parenthèse pour nos auditeurs en disant voilà, le discours d'un économiste peut tout à fait être de dire que le sauvetage des banques, contrairement à ce que l'on dit, n'est pas un immense cadeau donné aux riches et donc une preuve d'ultralibéralisme, mais au contraire une décision éminemment étatique, éminemment politique, éminemment spoliatrice et
absolument.
En tout cas absolument pas soutenue par un quelconque économiste libéral qui souhaite que chacun soit responsable des risques et des engagements qu'il a pris.
Absolument. Après, effectivement, la question des banques est très difficile. Hein. Ce n'est pas une question qu'on peut régler.
C'est la fameuse question systémique.
Et voilà, exactement. Ce n'est pas une question facile à traiter, mais en aucun cas, on peut dire que le sauvetage des banques, c'est le truc... C'est la chose évidente à faire parce que finalement, on sauve des banquiers, on sauve des actionnaires, mais ça se fait sur le dos du contribuable. Est-ce que c'est juste, la question de justice se pose? Est-ce que, en plus, économiquement, c'est bon? Je dirais, nous avons plutôt la position de dire non, parce que ça veut dire que l'aléa moral...
Il faut expliquer ce que c'est.
Et je vais expliquer ce que c'est. C'est que, enfin, en tout cas, ça veut dire que cet aléa va poursuivre. Et qu'est-ce qu'on entend par aléa moral? C'est justement l'irresponsabilité. L'irresponsabilité d'un certain nombre de banques, justement, à octroyer des crédits à tort et à travers, sachant
qu'il y a le filet de sécurité.
Et voilà, puisqu'en dernier... Parce que
privatisation des gains, nationalisation des pertes.
Et pourquoi nationalisation et pourquoi, je dirais, collectivisation des pertes? C'est parce qu'il faut savoir que dans nos systèmes financiers et monétaires, ont été mis en place des banques centrales. Et les banques centrales sont des prêteurs en dernier ressort. Donc, le banquier est véritablement... J'utilise ce terme, c'est... Bon, la banque peut mener ses activités en toute irresponsabilité. Elle n'a strictement aucun intérêt à être responsable, puisque de toute façon, au bout du compte... Et c'est pour ça que la situation actuelle est intéressante, parce qu'elle a bien montré qu'effectivement, ils pouvaient compter sur l'intervention publique pour être sauvés lorsqu'ils sont allés trop loin. Et que, rappelons qu'une banque se comporte de façon tout à fait différente d'une entreprise privée, puisque les entreprises privées ont en général au moins 50% de capital, voire 60% de capital, pour faire face à leurs engagements. Et que quand elles n'ont pas ces montants-là, eh ben, leur valeur, justement, diminue. Et que les banques ont au maximum 8% de capital.
Le fameux ratio Cook.
Le fameux ratio Cook. Et elles ont ce fameux ratio parce qu'on a été obligé de le mettre en œuvre, puisqu'une fois qu'un prêteur en dernier ressort avait été mis en place, il fallait évidemment mettre d'autres garde-fous pour éviter que le niveau de capital tombe à zéro, en définitive. Hein. Mais une banque ne peut pas survivre avec 8% de capital. C'est impossible.
Et je pense qu'il faut bien rappeler à nos auditeurs que la spécificité d'une banque, c'est qu'elle est créatrice de monnaie.
Et, voilà,
et en créant la monnaie, elle se donne une sorte de super pouvoir ne peut que l'entraîner dans des activités annexes que sont les LBO, donc en fait ce sont des rachats à effet de levier, et les opérations de trading pour compte propre. Donc des trading, c'est-à-dire d'arbitrage sur les marchés financiers, de spéculation financière,
exactement,
si on préfère ce terme, qu'en public. Et elles y ont un intérêt parce que de toute façon, chaque jour qui passe, elle crée de la monnaie par le phénomène du crédit. Et là, on peut se poser la question du rôle d'une banque centrale, et notamment de la BCE, mm-hmm. parce que la politique de Toba, qui visait à éviter l'inflation et donc à garder la stabilité monétaire, était probablement, alors que les banques n'étaient pas suffisamment encadrées sur leur politique de crédit, une énorme source d'inflation. Inflation que l'on n'a pas forcément vue dans les biens et les salaires, puisqu'il y a cette concurrence internationale qui Absolument. Nous protège ou au contraire nous contraint, bon, peu importe, mais qui s'est bien vue dans les actifs financiers. Et monsieur tout le monde paye aujourd'hui son appartement 3 fois plus cher.
Absolument. C'est-à-dire qu'en fait... l'inflation, dans le terme d'inflation, enfin, on parle d'inflation justement quand il y a création monétaire et que cette création monétaire se diffuse dans l'économie. Seulement, en général, elle ne se diffuse pas dans l'économie de façon uniforme. Mm-hmm. C'est pas comme si d'un coup, tous les prix augmentaient. Non, en général, il y a des poches.
Accentuées par les politiques publiques.
Et voilà, et j'y venais. C'est-à-dire que c'est pas un hasard si, effectivement, très régulièrement dans l'histoire, vous avez eu des bulles immobilières. Pourquoi ? Parce que vous avez des secteurs, le secteur immobilier est un secteur extrêmement réglementé. Vous avez des lois sur le foncier, vous avez des lois sur la réglementation des loyers, sur toutes sortes de choses qui font que c'est un secteur extrêmement favorable, sans compter le fait qu'effectivement les gens veulent avoir un toit sur leur tête. Donc c'est un produit qui est valorisé par les individus et qui est favorisé par la réglementation. En tout cas, la rareté est créée. Donc du coup, et d'ailleurs c'est intéressant de voir aux États-Unis que les États qui avaient une politique bien moins interventionniste en matière de contrôle du foncier n'ont pratiquement pas eu de bulle immobilière. Et que ce sont les États comme la Californie, par exemple,
qui ont créé une rareté
absolument gigantesque et ont eu les plus fortes bulles immobilières. Mais rappelons bien qu'effectivement, cette création monétaire, comme vous le disiez, est permise par la baisse. Et pas n'importe quelle baisse, c'est une baisse artificielle des taux d'intérêt. Or, qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt dans une économie ? C'est un taux extrêmement important. C'est le taux du... Enfin, je dirais que c'est le prix du temps, pour le dire simplement. C'est lié à la préférence que les gens ont pour le temps.
Le passé ou pour le présent, tout simplement.
Voilà, mais... Pour le présent en général, puisque on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut quand même pouvoir survivre. Donc, au début, en tout cas, si on imagine une société très primitive, c'est une société qui consomme tout ce qu'elle produit. Seulement, au fur et à mesure que, justement, on pense à des innovations comme le fait de créer une canne à pêche. Enfin, là, je fais l'exemple simple. Mais qui va permettre de pêcher plus de poissons. Donc, on peut finalement en garder 2 pour le lendemain, et puis etc. Et puis, la société se développe et prospère, etc. Et on observe, justement, qu'au fur et à mesure qu'une société prospère et se développe, le taux d'intérêt, c'est-à-dire que le prix que l'on donne au temps, diminue. Et donc, en fait, on est prêt à demander moins cher la mise à disposition de notre épargne pour la favoriser toutes sortes de projets, parce que finalement, cet argent va nous manquer moins que ce qui nous... Parce qu'on est plus riche et qu'on peut subvenir à nos besoins. Et donc, c'est un phénomène. Mais vous voyez, c'est un résultat. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter. C'est quelque chose que les gens décident. Et en fait, chacun d'entre nous...
C'est la société dans son ensemble.
Absolument. Et je dirais que le taux d'intérêt, si on le laisse évoluer librement, va en fait amalgamer l'ensemble de nos préférences temporelles et va créer ce fameux taux d'intérêt. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la difficulté qu'on peut avoir à évaluer une politique publique. Hein. C'est que justement, on est dans le marché a cette grande supériorité au système politique, je dirais, c'est qu'il est fondé sur les prix. Et les prix, c'est justement ce qui permet de dépasser la subjectivité de nos choix. Oui. Parce que vous aimez quelque chose, vous
On
avez
passe
un
de
désir.
L'ordinal au cardinal.
Exactement. Et c'est crucial parce que c'est ce qui permet, en fait, le calcul économique. Et le calcul économique, c'est quoi ? C'est de dire, je pense que demain, je peux obtenir tant de mon initiative, donc j'en déduis qu'aujourd'hui, je vais pouvoir investir cette somme. Et d'où les calculs des profits et des pertes. Et c'est comme ça qu'ultimement, on sait si une action si un projet a été profitable ou s'il ne l'a pas été. Mais pour que tout ça, ça fonctionne, pour que le calcul économique fonctionne, eh bien, il ne faut pas manipuler tous les prix. Quand on commence à manipuler les prix, et notamment notre fameux taux d'intérêt qui est absolument crucial, puisque c'est l'allocation dans le temps de nos ressources, et c'est ce qui fonde le développement économique. Parce que le développement économique, ce n'est pas de survivre seulement aujourd'hui, c'est de survivre aujourd'hui, demain, et puis dans 100 ans. Et donc, comme nos banques centrales manipulent ce taux, mais en permanence, et en particulier le BES, c'est-à-dire font penser, font croire, parce que c'est ça que le prix du temps a baissé, alors qu'il n'a pas baissé. Et c'est ça qui est important de garder à l'esprit. C'est que vous avez d'un côté un indicateur qui vous dit le prix du temps a baissé, et de l'autre, vous avez des comportements d'individus, vous, moi et tous les autres sur cette terre, qui sont en totale contradiction. Et donc, il y a un moment où vous allez avoir la rencontre de cette tension.
Et ça s'appelle la crise.
Et ça s'appelle la crise, c'est-à-dire que vous avez toutes sortes de ressources qui ont été investis dans des secteurs, en fait, qui ne sont pas profitables, dans lesquels les gens n'auraient jamais, et qu'on a cru parce que ces taux étaient manipulés, et on a pensé qu'on pouvait investir, et on a pensé qu'on pouvait mener des projets beaucoup plus longs que ce qu'on pensait, compte tenu du fait que de l'autre côté, vous avez toujours les comportements de monsieur et de madame, etc., qui sont les mêmes et qui demandent, eux, des biens autres que ceux dans lesquels l'argent est investi. Et donc, il y a un moment, vous avez une véritable
conflagration.
Voilà, exactement. Et vous avez ce phénomène de déclin, là. D'explosion de la bulle, qui entre guillemets, est une bonne chose, parce que ça veut dire que on revient aux fondamentaux économiques. C'est dur, mais normalement, l'économie peut s'assainir. Et ultimement, il faut éviter donc de manipuler ces taux.
Alors Cécile Philippe, revenons au concret. Oui. La crise financière que nous traversons, où en est-on ? À quelle étape on en est ? On a eu la première partie, on a eu la crise des subprimes, on a eu la crise des banques, on a eu le refinancement des banques par les États, et aujourd'hui on a la crise des États.
Ben voilà, on est passé d'une bulle à une autre.
Et maintenant alors,
ben voilà,
pour nos auditeurs, quelque chose d'un peu terre à terre, concret.
Et ben alors... Donc, on est bien passé même un peu plus long que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé. Rappelons que c'était il n'y a pas si longtemps, 1971, on met fin à l'étalon or. Ça, c'était une étape très importante dans nos systèmes monétaires. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, la monnaie ne va plus être basée sur un bien réel qui avait été sélectionné dans l'histoire. Hein.
C'est pas une idée choisie par
hasard. C'est l'or a vraiment...
Vous êtes favorable à l'étalon or, donc je note.
je pense que c'est une très très bonne façon. D'abord parce qu'il a été sélectionné au cours de l'histoire, parce qu'il a des spécificités physiques qui font qu'il est extrêmement facile à diviser, qu'il ne s'abîme pas. Enfin, l'or se
Il y a une forme d'éternité.
Il y a une forme d'éternité dans l'or, et plus encore, et sa production est limitée.
Et dans les bijoux qu'on offre aux femmes aussi, bien sûr.
Pardon, absolument.
Et dans les bijoux qu'on offre aux femmes aussi.
Donc, mais ce n'était pas pour ça que je voulais en parler. Enfin, je voulais le mentionner pour que les gens se rendent compte qu'effectivement, on est passé donc d'un système où vous aviez une monnaie fondée sur l'or à un système qu'on appelle... le terme français là va m'échapper, donc je veux dire, disons que c'est une monnaie qui ne dépend maintenant que des États, c'est-à-dire que c'est eux qui produisent les billets, donc votre billet n'a
et donc des taux de change qui sont le prix que les monnaies se donnent entre elles.
Le prix que les monnaies se donnent entre elles. Je dirais que la valeur d'une monnaie dépend aussi effectivement de la politique que mène un pays, etc. Et puis évidemment de la quantité de monnaie qu'on produit.
De monnaie en circulation, bien sûr.
Et voilà. Et c'est là où on a un vrai problème par rapport à l'or. Et c'est pour ça qu'effectivement, le système de l'étalon or offrait des garanties que le système actuel n'offre pas.
C'est une production limitée par
la rareté. Et on y revient à cette fameuse rareté. Là, on a une production qui peut être absolument illimitée. Et c'est bien ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que depuis 1970, vous voyez surgir des bulles. Ce fameux cycle économique de bulle, puis d'explosion de la bulle. Et donc, rappelons, dans les années 90, il y a eu la bulle de l'Internet. Pour empêcher et les conséquences économiques de cette bulle qui a explosé. Enfin, d'ailleurs, je dis les années 90, c'est faux, c'est plus les années 2000.
Enfin, 90, c'était quand même une bulle, c'était l'immobilier. On l'oublie, mais...
Qui n'était pas alimentée comme elle allait l'être, en fait, à partir du moment où la Banque fédérale américaine, donc qui est leur fameuse banque centrale, va baisser les taux d'un coup afin de faire face à cette crise de l'Internet. Et qui va donc alimenter, enfin qui va créer de la monnaie à ne plus savoir qu'en faire.
Sans compter la crise asiatique de 1997.
Je ne l'ai pas cité, absolument.
Et qui a également été résolue en faisant fonctionner la planche à billets.
Exactement.
Enfin, avec la forme moderne de la planche à billets qui est l'autorisation...
La monnaie électronique.
La possibilité pour les banques de prêter encore plus.
Exactement.
Maintenant,
on en est à la phase. Donc, pour résoudre... C'est pour bien montrer aux auditeurs le fait qu'à chaque crise, on a tenté de la résoudre par la même méthode. Et qui est, c'est-à-dire, on alimente une bulle par la création monétaire, on essaye de la résoudre par une nouvelle création monétaire.
On essaye de résoudre un problème d'endettement par plus d'endettement.
Exactement. Et donc, on est évidemment là-dedans. On est exactement dans le même phénomène. C'est-à-dire qu'après cette bulle immobilière, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que le marché tente de se restructurer, puisqu'il y a toutes sortes... En fait, la bulle, que révèle la bulle ? La bulle révèle que des projets ont
une
été
erreur d'anticipation.
Voilà. Et que le problème, c'est qu'elles ont été... Elles ont été collectives, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que, vous voyez, on est toujours en train de focaliser sur un accident, sur un scandale dans un domaine d'une économie.
Non, laissons ça de côté.
Et là, quand ça prend des proportions de politique publique, justement, c'est-à-dire...
c'est une erreur collective.
On est dans une erreur collective. Et donc, dont les conséquences sont absolument énormes par rapport à un cas qui pourrait être géré beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que, disons-le, les banques, il y a toujours eu des banques qui ont fait faillite. Et d'ailleurs, ça a servi de prétexte.
Et des États.
Mais je dirais que là, le cas, je voulais citer, c'est qu'au 19e siècle, bien sûr que certaines banques ont fait faillite. Mais c'était une banque à l'occasion. Le problème, c'est que ça avait servi de prétexte pour créer et encadrer l'activité bancaire et notamment créer des prêteurs en dénonceur parce que c'était jugé insupportable d'avoir une banque qui fait défaut. Maintenant qu'on va avoir qu'on fait face à ce risque systémique, à ces fameuses banques trop grosses pour les laisser faire faillite, on se rend compte que finalement, rétrospectivement, la faillite d'une banque,
c'est normal,
c'est sain. Normal et c'est sain et je dirais même plus que ça incite nos auditeurs et nous-mêmes.
Oui, et nos banquiers.
Exactement.
À la prudence.
Et à pas mettre notre argent dans n'importe quelle banque. C'est-à-dire, et c'est comme son médecin, on le choisit pas n'importe comment, il faut avoir un esprit critique. Et que, effectivement, rien n'est garanti complètement dans nos vies. Le risque zéro n'existe pas, encore une fois. Certains risques plutôt que des risques énormes.
Je reviens quand même aujourd'hui, où en est-on de la crise financière ? Vers quoi ?
Eh bien là, on en est au problème qu'on a la crise de l'endettement des États. C'est-à-dire qu'on a substitué une bulle obligataire à la bulle immobilière. Donc maintenant, on est en train de toucher le vrai risque.
Et alors, comment ça va se passer ?
Très honnêtement,
quelques pistes de réflexion, justement. Pas des prévisions.
Non, parce que
des réflexions.
C'est partie des réflexions qu'on a absolument. Enfin,
des pistes de réflexion. Nos auditeurs. Pas de solution. Il n'y a pas de solution. On ne lit pas l'avenir. Mais quelques pistes de réflexion sur.
Si, des solutions, je dirais que c'est plus facile d'en parler. C'est-à-dire qu'en.
Des solutions.
Voilà, je dirais aujourd'hui, on sait que, je pense, il n'y a pas de sortie de crise facile.
Donc il faut raboter les niches fiscales, supprimer le bouclier fiscal, augmenter les impôts.
Mais voilà.
C'est ce que je lis dans les journaux, j'aimerais avoir votre avis.
Donc c'est exactement, on a une crise dans l'endettement. L'endettement, ça veut dire qu'on a trop dépensé. On ne va pas essayer de rafistoler le système en subtilisant aux gens encore plus de leur richesse. Puisque le problème aujourd'hui, c'est que justement...
C'est ce qu'on est en train de faire.
Et mais oui, mais c'est une erreur fondamentale. De la même façon qu'il ne fallait pas répondre à la crise en augmentant les déficits et les dettes de façon colossale, il ne faut pas aujourd'hui, maintenant, se dire on va résoudre la crise en supprimant les niches fiscales. Comme si on faisait un cadeau aux gens. Rappelons que ce sont les gens qui ont produit de la richesse et qu'on leur en laisse simplement un peu plus.
Et donc ça veut dire que la politique là, du gouvernement est vouée à l'échec ?
Ça devrait être, actuellement, oui. On devrait suivre l'exemple anglais et allemand.
C'est-à-dire
celui de diminuer le train de vie de l'État. Et peut-être que les scandales qui aujourd'hui animent la scène politique française pourront avoir, espérons-le, cet aspect positif de faire réaliser aux gens que mais peut-être que notre argent est mal utilisé et que on va pas continuer à financer le train de vie de nos politiques quand nous on nous demande des efforts absolument colossaux qui sont réels, mais il faut que les dépenses publiques diminuent. Donc moi je veux bien qu'on parle d'augmentation d'impôts, mais à partir du moment où on aura commencé à parler de baisse des dépenses et de baisse vraiment significative, de sorte de redonner au secteur privé l'oxygène dont il a besoin pour redémarrer et recréer des emplois.
Et de la richesse, de la richesse à crédit.
Voilà ce qu'on appelle le développement durable. Et moi qui me suis extrêmement intéressée, énormément intéressée aux questions d'environnement, les environnementalistes devraient être les premiers à réaliser qu'une société sans capital ou qui détruit son capital est une société non durable. Et c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a les politiques publiques actuellement, à la fois donc à partir de 2007, mais on peut remonter ça plus longtemps, et actuellement, mais assèchent le secteur privé. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, si vous avez plus de projets, d'entreprises qui prennent des risques et qui tiennent leurs responsabilités, mais vous avez quoi? Vous avez une déliquescence totale de l'économie. Donc vous sapez les bases de la reprise. Alors, c'est pas pour dire que ce sera facile, parce que quand vous devez restructurer une économie, c'est difficile.
Mais Cécile Philippe, la diminution du train de vie de l'État, la diminution des dépenses, c'est ce que nous promettent tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, nous avons mentionné en début d'émission qu'il n'y avait eu qu'une augmentation de l'intervention de l'État et des politiques publiques, et globalement, pas dans une efficience parfaite. Et donc, ma question, c'est comment réformer alors qu'on ne parle que de réforme pour ne jamais réformer?
Ben c'est ça, c'est que...
Je suis un peu désemparé, je ne vous le cache
aussi,
pas.
Hein, nous aussi, mais c'est pour ça qu'il y a un aspect intéressant, c'est qu'à partir du moment où le phénomène de rareté est là, personne ne peut l'occulter. Or aujourd'hui...
Le mur de la réalité.
Le mur de la réalité est là, c'est-à-dire que les États, et c'est ce qu'on voit, hein, c'est que... ils vont être obligés de réformer et de restructurer leurs dettes s'ils veulent pouvoir continuer à avoir accès aux marchés financiers. Et c'est ça la grande, je dirais que c'est ça le...
Ou sinon, il y a un autre choix dont nous sommes pas très loin, puisqu'on a quand même le sentiment qu'on ne veut strictement rien faire. Quand je vois par exemple qu'en Espagne, au Portugal et en Grèce, on diminue de 5 à 10% la paye là, de maintenant, des fonctionnaires, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, et que nous, on ne fait rien, je me dis qu'en effet, il y a soit la voie de la réforme, mais elle semble très difficile à prendre, elle n'a jamais été prise,
pour le moment, elle est encore...
soit la voie de la faillite.
Ah mais absolument. Mais
qui est une des façons de résoudre les problèmes.
Disons que ça s'appellera pas une faillite.
Un défaut.
Soyons très clairs. Je pense que on assistera peut-être à un défaut de paiement, mais qui ne s'appellera pas une faillite parce que ça ne se dit plus.
Mais les conséquences seront absolument. Quelles seront-elles?
Le problème, c'est que de laisser arriver la faillite, c'est déjà ne pas se donner les moyens de le préparer. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que compte tenu du niveau d'endettement des États, il va être extrêmement difficile de ne pas restructurer des dettes. Il y a un certain nombre de choses qui ne pourront pas être payées. Il faut être très clair.
Mais attendez, derrière, vous avez des épargnants à qui on a dit que, de toute façon, dans l'assurance-vie, il y avait 70% d'obligations, dont des obligations d'État. De toute façon, il y a 1 200 milliards en assurance vie et 1 500 milliards de dettes de l'État. Donc, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on va, on va annuler purement et simplement les obligations du Trésor.
Mais c'est un risque. C'est ce qui s'est passé en Argentine. C'est ce qu'ils ont été obligés de faire. C'est-à-dire qu'ils ont finalement racheté les dettes à 16 ou 20% de leur valeur.
Oui, mais là, c'est la révolution en France, si c'est ça. Peut-être pas, remarquez. Finalement, on est peut-être suffisamment riche pour qu'un certain nombre de personnes soient un peu ruinées, mais bon.
Les
familles françaises depuis 70 ans ont l'habitude d'être ruinées.
Non, mais
de la guerre de 70 à celle de 14, ouais, en passant par celle de 40.
Mais je pense que c'est la raison pour laquelle, pour le moment, l'État français ne considère pas la réforme. Mais c'est un tort. Il devrait commencer véritablement à réduire.
Quelle responsabilité, tout de même.
Ah oui, mais quand vous avez un train de vie trop élevé, vous le réduisez. Les ministères, regardons le Canada, dans les années 90, ils ont diminué le budget de certains ministères de 50%.
Je crois que ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que c'est possible.
C'est possible.
Et que c'est possible sans bouleverser. Et je me demande si plutôt qu'à nos auditeurs, ce n'est pas un message à donner aux hommes politiques qui nous écouteraient,
absolument.
C'est de dire c'est possible, mes seigneurs, sans pour autant que cela change votre vie. En revanche, si vous ne réformez pas, vous risquez de nous entraîner dans des abîmes dont vous ne ressortirez pas indemne.
Eh ben, c'est sûr. Mais je dirais qu'il faut aussi vraiment pousser l'honnêteté jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on n'a pas nos états-providence par hasard. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui placent leur argent dans des bons du Trésor doivent être conscients du risque qu'ils prennent. Ils sont en train d'investir
mais
dans
on leur
des
dit,
États.
Mais on leur dit qu'il n'y a aucun risque, que c'est l'État et qu'il n'y a qu'à
mais
augmenter les impôts
pour payer
les... Mais
justement,
moi je suis
là pour vous dire que non. Et c'est ça qui il faut exercer son esprit critique, il faut lire ce qui s'est passé dans le cours de l'histoire, comment les gens ont été ruinés parce qu'ils avaient placé leur argent dans des bons du Trésor qui un jour n'ont plus rien valu parce que les États s'étaient trop endettés. Il y a toujours une limite. Même un État ne peut pas s'endetter de façon illimitée. Donc si vous continuez à lui donner du crédit alors que maintenant, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui montrent qu'il ne pourra probablement pas rembourser l'ensemble de son endettement, enfin de ses dettes. Il faut tirer la leçon. Et c'est important parce que c'est justement grâce à ce réalisme qu'on reviendra à des bases économiques beaucoup plus saines et on pourra repartir vers une croissance durable, un développement stable et puis plus de prospérité pour tous. Parce que là, on est dans une sorte de folie dépensière et qui effectivement, au bout du compte, risque vraiment de nous faire courir ces risques qu'on voulait pas prendre, justement. Donc c'est vraiment il est temps d'avoir une vraie réflexion là-dessus pour pouvoir éviter le pire.
Cécile Philippe, un très grand merci de votre intervention. Je rappelle donc pour nos auditeurs que vous êtes la présidente de l'Institut économique Molinari et qu'on peut trouver très facilement par l'intermédiaire des moteurs de recherche ou à institutmolinari.org un très grand nombre donc de vos publications et de vos réflexions donc sur ces différents sujets qui font l'actualité et qui font notre vie d'aujourd'hui et de demain. Et donc je souhaite à nos auditeurs d'excellentes vacances et surtout le plaisir d'exercer leur esprit critique, car c'est quelque chose que rien ni personne ne pourra jamais leur enlever.
Absolument.
Amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des lycéens dirigé par Hugues Sérapion. Émission préenregistrée le 9 juillet 2010, diffusée pour la première fois le samedi 7 août 2010, de midi à 13h30, puis l'après-midi de 16h à 17h30, et dimanche 8 août dans la nuit de minuit à 1h30. Cette émission a été réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 11 euros ou 9 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.